Petit problème. Voilà. Ça. Attendez un instant.
Notre Seigneur de grâce, pour en prise de sa joie et de l'intérêt pour sa parole. Aujourd'hui, nous nous intéressons de près à la quatrième lettre, celle qui est adressée à l'église de Thyatire. Pour en faire la lecture, nous la trouverons, cette lettre, au deuxième chapitre de l'Apocalypse, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'auteur de la lettre adresse donc cette lettre. Je cherchais un autre mot, mais bon. En se présentant sous trois appellations différentes. La première appellation, le Fils de Dieu. La seconde, quelqu'un l'a trouvé déjà, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et la troisième, celui qui a les pieds semblables à de l'airain. Alors moi j'ai du bronze aussi. La première appellation, ces trois appellations, pardon, sont sans équivoque. Dans la première, on ne note pas de différence avec notamment celle adressée à Smyrne, celui qui était mort et qui est ressuscité. Un titre, Fils de Dieu, qui à lui seul éclipse tout autre titre porté par n'importe quel autre personnage où qu'il se trouve. Seul le Fils de Dieu est mort pour sauver les hommes et ressusciter. Personne d'autre ne peut prétendre à cette appellation. Dieu a pris soin d'ailleurs de jalonner son parcours avec des repères que les hommes ne peuvent aucunement égaler, auxquels ils n'auraient jamais pensé. La notion de Fils de Dieu implique forcément d'autres. Nous ne pouvons concevoir un Fils de Dieu selon notre conception, selon notre imagination. Par conséquent, il faut respecter dans son intégralité la proposition faite par Dieu à la personne de son fils. Qu'est-ce qu'elle contient, cette proposition? La naissance virginale du Fils de Dieu, son ministère sur terre, sa mort, sa résurrection, son ministère auprès du Père, et puis bien sûr, son retour, que nous attendons tous, que nous préparons, et bien évidemment le jugement qu'il exercera lors de ce retour. Donc dire que Jésus est le Fils de Dieu englobe tout cela et rien, mais vraiment rien ne peut lui être enlevé. La seconde appellation, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. À quoi vous fait penser cette image? Un regard de feu. Moi, j'ai vu une vue perçante. D'emblée. Un chalumeau. J'ai vu une vue perçante. Une vue à laquelle absolument rien n'échappe. En effet, dans toutes les lettres, il y a une phrase qui revient. Je connais. Lorsque le Fils de Dieu dit qu'il connaît tout ce que nous faisons, ça veut aussi dire qu'il nous connaît intimement. Il me connaît. D'ailleurs, j'ai intérêt à être connu par lui, parce que si je ne suis pas connu par lui, il ne me reconnaîtra pas. D'autre part, la comparaison avec le feu parle de pureté, de purification, de distinction. Le feu, c'est ce qui sépare l'or, métal précieux s'il en est, qui fait saliver beaucoup de gens. Mais il sépare l'or de ses scories, de ses déchets. L'apôtre Paul utilise une expression intéressante dans sa lettre aux Corinthiens. Il souligne que le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. On peut donc considérer que le regard de Christ, il peut être double. Il veille sur nous, il voit le danger et le prévient. Donc, il s'agit d'un regard préventif. Mais on peut aussi voir un regard correctif et curatif lorsque nous nous sommes écartés de la route. Son regard perçant nous invite, nous convainc à discerner et à voir comme lui il voit et à nous repentir. D'ailleurs, c'est ce qu'il proposera à la fautive dans cette lettre à Thyatire. La troisième appellation, dont les pieds sont semblables à du bronze. Je viens de parler de l'or, métal précieux. Le bronze n'est pas aussi précieux que l'or. Mais à défaut d'être un métal précieux, le bronze a une caractéristique particulière, c'est qu'il peut se targuer d'être un métal dur et solide qui traverse les temps. Parmi les objets qui ont survécu et que l'on a retrouvés dans les fouilles de certaines civilisations disparues depuis bien longtemps, beaucoup d'objets sont en bronze. Quelle image pouvons-nous détacher de cette allusion? Des pieds semblables à du bronze. Les pieds comme les mains sont symboles d'action, d'activité, de comportement. Et pourquoi ne pas penser à l'activité incessante du Christ en faveur de son peuple? Celui qui ne reste pas inactif. Celui qui combat pour son peuple. Voici des idées fort justes correspondantes à son ministère et nous l'avons vu notamment comme le témoin fidèle et véritable. Sa carte d'identité présentée, vient le passage en revue de l'Église. Et Thyatire, tout comme Éphèse, tout comme Smyrne, tout comme Pergame, n'y échappe pas. Il ausculte les œuvres, l'amour, la foi, le service, la persévérance. Il ausculte même les dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Je viens d'énumérer à l'instant de parler tout à l'heure de cette expression « Je connais tes œuvres ». L'énumération de ce qu'il connaît laisse comprendre qu'il n'y a pas grand-chose qui échappe à son regard perspicace. Et cela me rappelle un documentaire sur l'aigle. La bête est très éloignée de sa proie. Elle est capable de déceler dans l'herbe qu'il y a une proie cachée qui bouge. Il n'y a donc pas grand-chose qui échappe au regard du Fils de Dieu avec un tel, sous une telle puissance. Que puis-je lui apprendre qu'il ne sache déjà? Néanmoins, il m'invite à lui faire connaître toutes mes difficultés. Il m'invite à me confier à lui. Donc, autrement dit, lorsqu'il parle de son intervention, de son action, de ce qu'il va faire, de ce qu'il a noté, de ce qu'il veut corriger, il sait de quoi il parle. Il ne le fait pas sans savoir. Il agit en connaissance de cause. Par conséquent, je suis en de bonnes mains. D'ailleurs, il suffit d'écouter ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour en être convaincu. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons ici à Thyatire l'exemple d'une église dont le travail est allé en s'accroissant. Ce n'était pas une église qui se reposait sur ses lauriers. Non, ça aurait été mentionné très probablement comme ça l'a été pour la Odyssée. Ses dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc, son travail est allé en s'accroissant. On va parler de la quantité. Mais j'ai l'audace de croire que la communauté de Thyatire devait sans doute veiller à ce qu'à la qualité soit jointe, à ce qu'à la quantité, pardon, soit jointe la qualité. Pourtant, il y a un grief. Et tout comme l'église de Pergame, dans laquelle existent des partisans de la doctrine de Balaam et de Nicolaïte, il y a au sein de l'église de Thyatire une Jézabel qui entraîne les serviteurs dans l'idolâtrie. Je suppose qu'il n'y a ici personne qui ignore qui est Jézabel. Si on vous traite de Jézabel, c'est dire que ce n'est pas un compliment, c'est un euphémisme vraiment doux. C'est une femme très, très connue. Elle est la femme d'un des rois d'Israël les plus connus. La Bible dit notamment que son mari s'appelait Akab. Et Jézabel est réputée en termes de méchanceté, en termes de mal. Donc, lorsqu'on vous traite de Jézabel, c'est vraiment gentil, c'est vraiment pas gentil. Alors, cette Jézabel se trouve dans l'église de Thyatire. Elle se dit prophétesse. Comme l'église de la Odyssée se disait riche, se croyait riche, et ne manquait de rien alors qu'elle était pauvre. Voyez-vous, on peut s'octroyer voire des titres que l'on n'a pas. Alors, entre celui qui se dit plombier et celui qui est plombier, lequel choisiriez-vous pour réparer, pour faire vos réparations de plomberie chez vous? Il y en a qui sont plombiers qui, quand même, vous donnent du fil à retordre. Ils peuvent vous donner du fil à retordre. Mais d'emblée, entre quelqu'un qui se dit plombier et quelqu'un qui est plombier, je suis sûr que si vous avez une réparation à faire, Vous vous tournez d'abord vers le plombier. Ça va de soi. Et d'ailleurs, quand il aura fini son travail, peut-être même le recommanderiez-vous à vos amis pour le travail qui aura été fait. Mais si vous travaillez avec celui qui se dit plombier, il y a des chances pour qu'il vous donne quelque chose qui ressemble à du travail du plombier, mais qui n'en est pas. Il ne suffit pas de se dire, il ne suffit pas de se croire pour être vraiment. Mais qui est-ce qui dit vraiment ce que vous êtes? Dieu. Mais aussi des hommes. Des hommes seront chargés de me dire ce que Dieu veut, ce qu'il dit. Pour autant, Dieu ne l'aura-t-il pas dit? Si nous nous référons aux conseils que donne l'apôtre Paul à Tite, notamment en ce qui concerne la nomination des gens dans l'Église, nous nous rendons compte que ces personnes doivent être éprouvées. Elles sont éprouvées par qui? Par des hommes. En tout cas, Dieu n'approuve pas son dit ministère, son ministère de prophétesse. Mais pourquoi? Pour quelle raison Dieu n'approuve-t-il pas ce ministère-là? Parce que la prophétie, si nous consultons d'autres pages de l'Écriture, la prophétie n'est pas selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'écarte des sentiers de la parole. La prophétie écarte la parole, la prophétie de Jézabel, écarte la parole pour s'ériger en parole souveraine. En parole dernière, dit simplement, la prophétie de Jézabel ne respecte pas la parole. Il suffit d'ailleurs de voir le contenu. Quel est-il ce contenu? Entraîné dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, les mêmes choses auxquelles Balaam voulait inviter le peuple à faire. Autre raison pour laquelle le Seigneur n'approuve pas ce ministère, l'esprit du prophète n'est certainement pas soumis au prophète. Parce que si son l'esprit du prophète l'était à son prophète, ben il devrait se préoccuper de jeter un regard critique sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il dit. Lorsque le prophète dit quelque chose qui s'écarte de la parole, il commet une erreur et il va induire les autres en erreur. Parce que le prophète a de l'autorité. Nous allons y venir dans un petit moment. Je pense qu'il doit en être de même en ce qui concerne les autres dons au ministère. Quelquefois, certaines personnes s'abandonnent à leur imagination, qui peut être très fertile, en croyant être encore dans la parole, mais en se trompant, hélas. Cela peut ne pas être de beaucoup. On peut ne pas se tromper de beaucoup, mais on se trompe quand même. Et quand il s'agit de la parole, ben, il faut taper juste. Son ministère de prophétesse débouche sur l'enseignement. La parole dit, elle enseigne. Le ministère de prophète est un ministère d'enseignement. Il est vrai que nous demeurons tous des enseignants. D'une manière ou d'une autre, nous enseignons par notre attitude, par nos propos que nous allons dire, que nous allons échanger, qui n'auront pas forcément grand-chose, qui ne seront pas forcément paroles tirées de l'Évangile. Mais il y a des gestes, des actes que vous allez accomplir qui vont dire l'Évangile. Vous n'aurez pas besoin forcément d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. On va déceler qu'il y a là quelque chose qui fait de vous quelqu'un de différent. Le Le ministère du prophète est un prophète d'enseignement. Et lorsque vous proposez une parole d'édification à l'Église, vous l'enseignez. Et nous, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que le ministère du prophète est un ministère qui a de l'autorité. Et quand il est dans l'Église, quand il est manifesté dans l'Église, il peut générer du bien comme du mal. Donc c'est un ministère qu'il ne faut convient pas d'embrasser à la légère, car les enseignants seront jugés plus sévèrement. Elle enseigne et apparemment ça marche. Elle séduit les serviteurs. Vous savez, il y a un piège qui est tendu aux enfants de Dieu et qui a fonctionné depuis la création du monde et qui continue de fonctionner jusqu'à maintenant, celui de la séduction. La séduction, on vous propose du clinquant au profit de la vérité, au détriment, pardon, de la vérité. On vous propose quelque chose qui ressemble à, qui paraît être, mais qui n'est pas. Et si nous sommes à la recherche, je sais que beaucoup de mes concitoyens sont avides de sensations, de spectaculaires, et ils peuvent se rabattre très souvent sur n'importe quoi. Mais en tout cas, tâchons d'être des chrétiens authentiques, là où l'on peut, chez qui on peut trouver, n'est-ce pas, le recours dont on aura besoin, le secours dont on aura besoin, l'aide dont on aura besoin, l'enseignement dont on aura besoin. Elle séduit les serviteurs et évidemment, si son enseignement n'est pas bon, il est clair que pour convaincre d'autres personnes, il faut séduire. Et nous avons un proverbe en créole qui dit quoi? Le parap en mouche et puis le vinaigre. Alors, ceci ne doit pas remettre en question toutes les expériences authentiques et vraies qui se produisent. Mais quelquefois, derrière certaines réalisations, des tentatives en tout cas de séduction qui, hélas, continuent encore aujourd'hui de fonctionner. Donc, lorsque vous séduisez quelqu'un que vous enseignez, vous le trompez, puisque vous l'invitez à croire, à faire, à penser ce que Dieu n'approuve pas. La séduction, c'est rien d'autre de plus que ça. Et les poids les plus faciles pour la séduction, ce sont celles qui sont rattachées plus à la forme peut-être que au fond. On vient à l'Évangile, mais on est resté à l'extérieur. Il y a des choses dans lesquelles on croit, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. On n'a pas complètement donné sa vie au Seigneur. On n'a pas fait le nécessaire pour que notre cœur appartienne de façon authentique et totale au Seigneur. Alors le grief, le vrai grief, c'est pas tant que Isabelle se dise prophétesse. C'est pas bien. Ça ne correspond pas à l'éthique de l'Église du Christ. Le vrai grief, c'est que Jézabel, qu'on la laisse faire. C'est le reproche qui est fait à l'Église de Thyatire. Tu laisses. Alors, l'Église se compose de gens mis à part pour le service de Dieu. Mais vous pouvez trouver dans l'Église des gens qui sont là et qui ne sont pas pour le service de Dieu. Qui ne sont pas intéressés par le service de Dieu. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que parmi les brebis peuvent, hélas, se cacher des loups. L'apôtre Paul l'annonçait déjà très tôt. Le vrai grief, donc, consiste au fait qu'on la laisse faire comme chez elle. Oh là là. Que dois-je comprendre? Tout d'abord, il est impératif pour l'Église de Thyatire, il est urgent d'arrêter quelqu'un comme cela. Alors pourquoi cela n'est-il pas fait? Oh, il y a peut-être eu des tentatives qui n'ont pas abouti, et on en est toujours au même point. D'ailleurs, quand on dit au même point, on peut peut-être se tromper, peut-être qu'on a déjà avancé dans les dégâts produits, puisque plus elle reste là, plus elle risque de séduire encore d'autres. Permettez-moi de partager avec vous au moins deux raisons qui font qu'on ne l'arrête pas. La première, je dirais hélas, c'est l'ignorance. Savez-vous que l'ignorance tue? L'ignorant n'est pas compétent ni pour enseigner, ni pour renseigner. Il y a beaucoup d'ignorants qui, hélas, se prennent pour des savants. J'en ai rencontré beaucoup. Mais tâchons de ne pas être de ceux-là, de ceux qui ne savent pas qu'ils sont ignorants et qui se prennent pour des savants. Alors, on ne sait pas. Apparemment, le droit de ne pas savoir n'existe pas ici. Normalement, cela aurait dû être fait. Donc, il y a une connaissance qui doit être mise en place. Le partage d'une connaissance qui permettent que les gens puissent échapper, résister à la séduction. On le sait peut-être, mais on se contente de passer de la pommade, comme on dit, de mettre, comme on dit dans notre jargon ici, mettre une cautère sur une jambe de bois. Alors, ça ne veut pas dire que l'on n'a rien fait, encore une fois, pour arrêter les frais. Mais cela veut dire que l'on n'a peut-être pas tout fait pour que ça cesse. Parce que si le Seigneur reprend là-dessus, si le Seigneur insiste là-dessus, c'est qu'il y avait la possibilité de le faire. La deuxième raison, à l'ignorance, c'est la peur. Vous savez, parce que cette personne, elle impressionne, parce qu'elle est fortunée, elle donne une belle dîme, et si on lui fait de la peine, peut-être qu'elle va nous court-circuiter par l'absence de ça, en nous privant de sa dîme. Donc, on va pas lui dire grand-chose pour ne pas la déranger. Peut-être que c'est une personne à scandale. Peut-être que quand vous lui dites les choses en aparté, tout de suite, elle prend un mégaphone pour l'annoncer. Peut-être que c'est une personne influente qui s'est déjà ralliée quelques... Et on a peur que cela produise, n'est-ce pas? Je peux comprendre, hein, pour l'avoir vécu. Ça peut provoquer une cassure dans l'Église. Mais cassure ou pas, apparemment, il semble qu'il soit plus urgent et plus impératif de l'arrêter que de penser à ce que cela peut produire. Apparemment. Le Seigneur dit lui avoir donné du temps pour se repentir et qu'elle ne l'a pas fait. Je pense que dans ce temps également, effectivement, que la communauté a dû faire en sorte pour que cela cesse. Mais il y a un moment pour passer du bon, il y a un moment où il faut passer à autre chose. En tout cas pour la santé de l'Église. Le temps de passer du bon, c'était le temps pour se repentir. Ce temps est passé, il faut passer à l'étape suivante. Laquelle? Quelle est cette étape? De toute façon, il est manifeste que ce n'est pas le Seigneur lui-même qui devrait intervenir. Il dit qu'il lui a donné du temps pour se repentir. Maintenant, il accuse, il relève dans les griefs contre la communauté de Thyatire qu'elle laisse faire. Donc, c'est à elle de prendre cette responsabilité. C'est à elle d'assumer cette tâche. Et si le Seigneur intervient, c'est en l'absence d'une intervention qui aurait dû être faite et qui ne l'a pas été. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette Jézabel. Que tu laisses cette Jézabel séduire mes serviteurs. Frères et sœurs, pour clore, je terminerai par ce message que nous transmet cette information. Tout d'abord, il est en rapport avec la connaissance. Je dois chercher à savoir, chercher à connaître. Chercher à savoir, chercher à connaître, c'est d'abord admettre que je ne sais pas. Si tu sais déjà, tu ne cherches plus à connaître, sauf si tu es encore friand d'apprendre. Mais en général, quand on sait déjà, quand on croit qu'on sait déjà, on pense qu'on n'a plus besoin de savoir. Mais n'oublions jamais que nous restons toujours une terre qui a besoin de la connaissance, de partager la connaissance du Seigneur, puisque le diable ne reste pas inactif quant à cette connaissance. Il va chercher à la déformer, tout comme il a fait. Dieu a-t-il vraiment dit? Ça fait des années que tu fais ça, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, vous savez. Et mon professeur d'histoire disait ceci, les nouveautés d'aujourd'hui, ce sont les hérésies de l'Église, de la première Église. Donc, ce n'est pas tout ce qui brille, en tout cas, qui est or. Et nous devons être, j'ai envie de dire, friands de cette connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est cette connaissance-là qui va nous permettre de résister à la séduction. Si je ne connais pas la parole, je peux facilement être séduit. Donc, je dois chercher à détenir la connaissance, la bonne connaissance. Me tenir auprès de ceux qui la délivrent et chercher à la délivrer à ceux qui en ont soif. Deuxième message lequel je veux terminer, toujours rester humble face à la connaissance détenue. Vous savez, quand on a de la connaissance, quelquefois, on prend la grosse tête. On croit que ça nous donne l'impression d'être supérieur aux autres. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit, malgré toute la connaissance que je pourrais avoir. Je ne suis supérieur à personne. Au contraire, je suis au service de ceux qui ont besoin de cette connaissance. Et je devrais être disponible pour partager cette connaissance avec ceux qui en ont besoin. Cette connaissance ne me confère aucune supériorité sur qui que ce soit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même nous invite à être serviteurs les uns des autres. Et puis, quand j'ai la connaissance, qui m'a fourni la connaissance? C'est l'Esprit. J'ai reçu la connaissance de l'Esprit. J'étais ignorant, il m'a rendu sachant, savant, comme vous voulez. Et cela vient de lui. Par conséquent, je n'ai aucune raison de faire la grosseté. Voilà les deux messages que je voulais partager avec vous. Pour clore cette prédication. Merci de m'avoir prêté votre attention. Je vais vous inviter à incliner la tête un instant. Seigneur, quel privilège nous avons tout un chacun d'être au bénéfice de ta connaissance. Nous voulons vraiment venir vers toi comme ne sachant rien, comme ne connaissant pas, même quand nous aurions de la connaissance, parce que nous croyons que tu peux encore rendre plus performante cette connaissance. Seigneur, merci de disposer déjà nos cœurs à la bonne connaissance pour lui faire de la place afin de résister au moment venu à toute tentative de l'adversaire de nous séduire. Nous voulons vraiment, Père, avoir cette arme qui nous permette de résister, de combattre la séduction. Nous avons aussi besoin que tu nous rendes humbles, Père, afin que nous puissions nous réjouir, certes, de la connaissance que tu nous apportes, mais surtout de nous rendre disponibles en faisant taire tout sentiment de supériorité pour porter la connaissance à ceux qui en ont besoin. Seigneur, merci de ce que nous ne gardons pas cette connaissance pour nous-mêmes, mais que nous soyons vraiment ardents pour la partager, pour la faire connaître, pour que notre Église puisse continuer la marche qu'elle a commencé. Seigneur, sois béni et merci parce que tu es là où il y a la tristesse, tu peux apporter la joie. Là où il y a le malheur, tu peux apporter le bonheur. Là où il y a les souvenirs mauvais, Seigneur, tu peux guérir les cœurs. Tu peux guérir les âmes. Là où il y a la souffrance, Seigneur, tu peux apporter la paix. Je glorifie ton nom et je t'exalte, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus. Amen.